Pada nida pama gama paga magari sasari gama paga ma pa pa.
Bonjour à tous et à toutes, c'est l'heure de rendez-vous avec un musicien de talent qui est heureusement installé par chez nous dans les Alpes de Haute-Provence. Il s'agit de Stéphane Thomas, flûtiste, guitariste et j'en passe. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Alors on va parler musique et puis surtout de tous ces projets qui sont en cours et ceux qui se réalisent évidemment puisqu'on va pouvoir vous voir très prochainement dans un concert en résidence, c'est ça le premier spectacle à venir ?
Alors c'est peut-être pas le premier spectacle à venir, enfin en tout cas il y a un projet, oui, avec une résidence en octobre à René Char, soutenu aussi par la Ligue de l'Enseignement. Donc un spectacle qui s'appelle Note à Note, et avec mon camarade Sargam Maridias, avec qui j'ai fait plusieurs projets. Donc à nous deux, on doit jouer, je pense, une quinzaine d'instruments. Donc sur ce spectacle, peut-être une dizaine. c'est un spectacle donc, qui s'appelle Note à Note, et on questionne l'idée de noter la musique. Voilà. Pourquoi on note la musique ? Pourquoi on l'écrit ? Pourquoi on a dû l'écrire ? Voilà la question de la mémorisation, de la transmission, la question de l'archivage, voilà. Et c'est pas un cours de solfège, on parle pas d'écriture dans le sens solfège, on parle même pas d'ailleurs de l'écriture occidentale, on va parler comment on écrit la musique dans diverses régions du monde, parce qu'il y a d'autres systèmes d'écriture. Mais ce n'est pas non plus une conférence, ni un spectacle, je dirais un cours, pas du tout. On voit divers tableaux avec à chaque fois deux musiciens qui sont dans des situations différentes. Par exemple, en train de donner un concert, en train de répéter, en train de créer, en situation d'apprentissage. Et il y a toujours deux personnages. Et à chaque fois se pose la question de noter. La musique, voilà. Donc pourquoi on note, comment on note, voilà, ces questions apparaissent à travers des situations, des dialogues, de la musique, tout ça de manière... c'est un spectacle, ça reste un spectacle musical, voilà, avec des personnages à chaque fois différents.
Ça, voilà, qui attise la curiosité, on se demande bien comment ça va se dérouler.
Voilà, et c'est un spectacle qui se veut vraiment tout public, qui peut intéresser les grands comme les tout petits. Oui.
Donc ça, c'est à quel endroit et quand ?
Alors là, pour l'instant, on est en résidence, c'est-à-dire on est encore en création. Mm-hmm. On avait fait une première partie de résidence soutenue par Art et Culture La Chouette, donc cette association basée dans le Haut-Verdon. Et là, on va finir donc ce spectacle avec le soutien de la Ligue de l'Enseignement. Voilà.
D'accord. Donc, on en saura plus bientôt.
Voilà. Et on espère une sortie de résidence donc le vendredi, qui doit être le vendredi 24 octobre, je crois, mm-hmm. quelque chose comme ça.
Et ce sera donc à Manosque, ça ?
À René Char.
À René Char. À Digne. Ah, d'accord. Voilà. Super. Voilà. Et puis, il y en a plein d'autres, des projets. par quoi on commence ? Est-ce que celui avec Renat 7 ?
Alors, ah oui, alors ça c'est le spectacle. Alors ça c'est le prochain, la prochaine. Je joue jeudi soir.
Oui.
Et oui, déjà jeudi. Jeudi et vendredi prochain, dans le cadre du OFF, du Festival des Correspondances, à Manosque. Donc, voilà, festival littéraire.
Est-ce que c'est cette semaine ?
Oui, c'est cette semaine.
Oui, voilà, on est le 23, donc ce sera le 25 et le 26.
Exactement. Voilà.
Septembre.
Et on va jouer dans la salle du Rotary, à Manosque, à la rue sans nom. Dans la rue sans nom, voilà. Alors, ça, c'est un projet, ça fait maintenant peut-être 2 ans qu'on travaille dessus, je m'en rends plus pas bien compte. Ça fait plus d'un an. Je crois qu'un an et demi qu'on tourne avec ce spectacle. Étonnamment, on n'a pas encore joué dans le 04, c'est notre premier concert dans le 04. Oui. On a beaucoup joué dans le Var, dans les Alpes-Maritimes, dans la Drôme. On est allé jouer à 7 aussi, au Festival International de la Poésie. Alors ça, c'est un spectacle qui vient de la rencontre de Renat 7 et Colette Gibelin. Alors déjà, je peux présenter ces deux personnages.
Oui.
de personnalité. Renat, il est connu pour chanter du provençal. Mm-hmm. Voilà, il a déjà fait beaucoup de projets très sérieux. Et puis il tourne toujours, il a toujours 3-4 spectacles en même temps qui tournent. Il a travaillé par exemple avec Christian Hildeverck, avec qui j'ai joué également, et puis que beaucoup de personnes connaissent, contrebassiste. Et là, c'est la première fois qu'il fait un spectacle dans lequel il chante en français. Alors, ça vient d'une rencontre avec une poète qui s'appelle Colette Gibelin, qui est une poète du Var, qui a déjà édité une 40aine d'ouvrages, qui est très reconnue dans le milieu de la poésie, qui passe régulièrement au Festival International de Sète, qui a déjà des ouvrages qui lui sont consacrés. C'est une poésie magnifique, j'adore. J'ai vraiment tout de suite été conquis par son écriture, et Renat aussi. Voilà, je sais plus comment ils se sont rencontrés, mais en tout cas, Renat a eu l'idée comme ça, un peu d'abord par amusement peut-être, d'inventer une mélodie un peu sur un de ses textes. Voilà, peut-être en forme de cadeau ou de clin d'œil. Et puis il y a eu un espèce de déclic. Et il s'est mis à trouver plein de mélodies sur plein de textes. Et ensuite, nous nous sommes rencontrés. Et là, moi, j'ai créé des arrangements musicaux. J'ai amené ma flûte, ma guitare, d'autres instruments aussi, mais surtout la flûte et la guitare. Plusieurs sortes de guitares, aussi bien guitare classique, guitare électrique, flûte classique, flûte indienne. On va vraiment dans des directions esthétiques très très différentes, du folk au blues, à la pop, la chanson française traditionnelle, à des choses plus très très ouvertes, plus improvisées. Et puis aussi, alors ce qu'on a fait, c'est que parfois ça sonne. Alors voilà, on a essayé de faire en sorte que ça sonne chanson, mais on n'est pas resté figé sur, en tout cas très rarement, sur la forme couplet-refrain. Voilà, on s'est vraiment amusé avec la forme des textes. Et puis voilà, on a à chaque fois, donc on a fait des propositions, on a mis tout ça en forme, et tout ça a été validé par Colette, voilà, qui nous a suivis et qui continue de nous suivre comme une véritable fan. Elle est là presque à tous nos concerts, et c'est chouette parce que du coup, on se retrouve souvent tous les trois, enfin sur scène. Bon, elle vient des fois au début du concert pour présenter un peu le projet. Elle est avec nous à la fin, enfin elle est avec nous dans la salle devant nous. Et je dis ça parce que il se passe vraiment un phénomène qu'on ressent très fort et qui nous surprend toujours. On a l'impression d'être un trio. Voilà, on est deux sur scène, mais on a vraiment l'impression d'être un trio, d'être un espèce de groupe de rock là comme ça, un trio. C'est vraiment très sympa, très chouette. En tout cas, voilà, on est très content de ce projet. Et pour la première fois, donc, on le présente dans le 04 à Manosque. Voilà, pour deux soirs de suite. Je ne sais pas si j'ai à peu près fait le
tour.
Oui,
c'est bien. Je suis en train de penser que je t'avais dit avant de faire cette émission qu'on allait commencer par d'abord faire le portrait du musicien et tout ça, et qu'on mettrait l'agenda à la fin. et je commence direct par les projets et les dates. Ce n'est pas grave. Hein. On verra. On va déjà écouter peut-être un extrait du spectacle qui va avoir lieu donc jeudi et vendredi à la salle du Rotary Club à Manosque. On commence par lequel? Le vent?
Eh bien, le vent, c'est le spectacle, le morceau qui ouvre le spectacle.
Le vent m'a traversé et puis il est parti. Mais en moi souffle encore sa lumière. Quand la nuit tombe sur le monde, quand la menace, quand la grimace, tu attends le vent. Tu reçois le vent, il te traverse et il s'en va vers là-bas, les cimes et les gouffres, les hauteurs du vivant. Il s'en va, mais il t'a réveillé, remis en mouvement. Il a fait de toi cette feuille vibrante que même la mort n'empêchera pas de voltiger dans l'air, avec cette grâce éphémère de ce qui jamais ne revient. Fini les heures inutiles, les solitudes ricanantes, fini les chaînes, leurs meurtrissures. Toutes les paroles retenues se déversent parce que le vent t'a traversé, t'a emporté, tourbillons et tempêtes. Quand la nuit tombe sur le monde, quand la menace, quand la grimace, tu attends le vent. Tu reçois le vent, il te traverse et il s'en va vers là-bas, les cimes et les gouffres, les hauteurs du vivant. Il t'a traversé comme ont traversé les enfants dans ton ventre. Les enfants, ces bourgeons, ces lambeaux d'espérance. Il a secoué l'arbre que je suis pour qu'en tombent les fruits et pour que continue la vie et ses miracles, ses moissons, ses marées. Quand la nuit tombe sur le monde, quand la menace, quand la grimace, tu attends le vent. Le vent m'a traversé, et puis il est parti, mais en moi souffle encore sa lumière. Le vent m'a traversé.
Voilà donc un premier morceau qu'on pourra retrouver dans le spectacle de Renate Sett et Stéphane Thomas. J'en perds mes mots. Il y a un titre pour ce spectacle ?
Justement, c'est le titre
de
ce morceau,
traversé.
Le vent m'a traversé.
D'accord.
Ouais, voilà.
On va écouter un autre qui est bien différent, peut-être Tourne la manivelle.
Voilà. Alors, ça c'est peut-être, oui. Je crois que maintenant c'est pas celui qui ferme le spectacle.
Ah, alors
peut-être. Eh bien, très bien, voilà, ouais, ça va. Allez.
Tourne la manivelle. gestes du présent. C'était difficile. Il fallait accepter d'oublier. J'ai fait le geste et le monde s'est ouvert à moi. Comme une rose un peu fripée, mais si parfumée. J'ai dit, la nuit va tomber. Il m'a dit, accueille le soleil pour qu'il puisse flamboyer dans tes veines. J'ai dit, pourquoi faut-il que tout finisse? Il m'a dit, tout continue. Donne asile aux rochers, aux arbres, ou bien aux papillons si tu veux. Tu es un maillon de la chaîne que le présent perpétue, perpétue à jamais. Hey, tourne, tourne la manivelle, tourne, tourne, tourne la manivelle. Hey, tourne la manivelle, tourne, tourne, tourne la manivelle.
Voilà, tourne la manivelle. Donc c'est dans un texte de
Colette
Gibelin, et mis en musique par Renate et Stéphane Thomas. c'est ça, et qu'on pourra voir donc à Manosque ce jeudi et vendredi. À quelle heure?
À 19h. 19h15 exactement.
19h15, salle du Rotary.
À la rue sans nom.
Rue
facile
sans
à
nom.
Se rappeler.
Ah oui.
Voilà, rue sans nom.
Ils ne se sont pas cassés la tête. donc ça, c'est un beau projet qui voit le jour en ce moment. Il y a d'autres, on parlait de Pierre Ragolski aussi, avec qui vous...
Ah oui, voilà, alors ça, c'est un... Oui, on peut en parler.
Enfin, je ne sais pas dans quel ordre.
Ça, on verra peut-être un peu plus tard. Mais oui, en ce moment, on est quasiment en fin de création de ce spectacle, Pierre Ragolski, qui est un poète, on va dire, très productif. et là, donc, on a monté un spectacle. Là, il s'agit de lecture sur lequel j'improvise.
Ah oui.
Voilà.
C'est encore un autre type de...
Mais pareil, avec ma guitare et ma flûte. Donc, on va dire que c'est un petit peu le point commun avec le spectacle que je fais avec Renate. Mais par contre, c'est pas de la chanson. Voilà, il s'agit de lecture de texte, de texte déclamé. Voilà, et moi, j'improvise autour de ces textes. Voilà, puisque l'improvisation... pour moi, l'improvisation, c'est un pan important de mon activité. C'est-à-dire que moi, je suis musicien de formation de jazz à la base. Et aussi, je travaille beaucoup la musique indienne. Je travaille beaucoup de choses, je compose, j'accompagne plusieurs artistes. Un de mes points forts, c'est l'improvisation. Et aussi, je travaille aussi avec des artistes, sur des spectacles pour lesquels je ne fais qu'improviser, par exemple. Mmh. Voilà. Ça, c'est quelque chose d'important. Alors, c'est vrai que dans le jazz, l'improvisation a une part très importante, dans la musique indienne aussi. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup improviser sur des textes, sur de la danse, sur des artistes qui donnent, comment on appelle, des performances, mais aussi seul ou avec d'autres musiciens. Avec Christiane Hildevert, par exemple, on s'est rencontrés un peu comme ça, au travers de l'improvisation pure.
Il est sorti un album, d'ailleurs, Fable et Silence.
Oui, voilà. Dans lequel on ne fait pas qu'improviser, on joue aussi des choses écrites, mais l'improvisation est une grande part du projet. C'est une grande part du projet. Je dirais que c'est un de mes points forts. Voilà. Et c'est ce qui a donc nourri le projet, en tout cas avec Pierre. Voilà ce que je peux dire pour l'instant.
D'accord. Il y a aussi donc Il va y avoir dans le OFF, dans le cadre du OFF, un spectacle aussi en 2026.
Voilà, à René Char, dans le cadre du programme OFF de René Char. Je vais jouer, ça c'est, je crois c'est en mars, je n'ai plus la date exacte.
Et ça s'appelle ?
Alors c'est le Ramayana.
Voilà, c'est ça. Donc c'est le 14 mars.
Le 14 mars.
Un samedi, voilà, ouais. À 20h30 au Centre culturel René Char. Ouais. Musique et danse, spectacle de contes.
Oui.
Alors, je vais nous en dire plus.
Encore une autre chose que je fais aussi.
C'est très diversifié, hein. C'est intéressant.
Voilà, alors là, on rejoint l'Inde, puisque ouais. Bah, là, j'en ai un peu parlé. Hein. J'ai étudié l'Inde, la musique indienne, pardon, mm-hmm. En Inde. J'ai étudié l'Inde aussi, l'histoire de l'Inde. Et j'ai étudié le tamoul, par exemple. Je parle un peu le tamoul. Voilà, je suis allé beaucoup en Inde, surtout dans, donc je suis allé dans l'Inde du Sud, dans le Tamil Nadu. Et j'ai étudié la musique classique de l'Inde du Sud. Parce qu'il y a deux grands systèmes, on va dire. Bon, il n'y a pas que deux musiques classiques indiennes en Inde, mais il y a deux grands systèmes, le système hindoustani et carnatique. Moi, j'ai étudié le système carnatique avec un grand maître de flûte carnatique qui s'appelait donc Ramani, qui était une grande, grande star de l'Inde du Sud. Voilà, qui a eu beaucoup de prix, beaucoup d'honneurs, qui est quelqu'un d'important, même pour l'histoire de la flûte, hein, je dirais, de la flûte indienne. Et donc là, un autre côté, là je compte essentiellement dans ce spectacle. C'est un spectacle qui fait un peu moins d'une heure et demie et j'ai à peu près une heure de texte là-dedans. Le reste c'est de la musique. Je compte seul, mais il y a quand même des interventions de deux autres personnages. Donc avec Mathias Autexier qui intervient aussi un peu, mais qui essentiellement joue de la percussion dans ce spectacle. Et puis Léa Favre, qui joue aussi un personnage, mais qui intervient surtout pour danser. Voilà, donc Mathias, formidable musicien, percussionniste qu'on a déjà vu avec le groupe Bissap, par exemple, récemment.
Oui, oui, oui.
Voilà, qui est passé récemment à René Char, mais dans beaucoup de projets vraiment formidables. Et puis Léa qui pratique une danse indienne qui est une danse d'ailleurs pas si connue que ça, parce que dans la danse indienne on connaît surtout le Bharatanatyam, mais là elle danse la danse Odissi. C'est on va dire, bon, pour quelqu'un qui s'y connaît pas trop, il y a quand même une connexion, ça se rapproche, c'est peut-être des formes plus arrondies, je dirais, si je peux essayer de, de vulgariser comme ça la présentation de cette danse. Enfin, ça reste voilà, une danse très, très rythmée. D'ailleurs, elle ne fait pas que de la danse classique, c'est vrai. J'ai tenu à ce qu'il y ait aussi un peu de danse folklorique aussi dans ce spectacle. Alors, voilà, pour présenter ce spectacle... d'abord, ça raconte une histoire. Le Ramayana. Alors, le Ramayana, c'est une épopée indienne qui a été écrite, on pense, il y a 2000 ans. Alors, certains vous diront beaucoup plus, mais bon, les historiens un peu sérieux s'attachent plutôt autour de 2000 ans. C'est une épopée qui a la taille de la Bible. Et qui est une histoire vraiment qui se tient. C'est-à-dire que c'est pas une compilation de plusieurs histoires, c'est vraiment une histoire. Voilà, donc l'histoire d'un prince qui est normalement appelé devenir le roi. Et puis pour une histoire de promesse qu'a fait son père. Je ne veux pas rentrer dans les détails maintenant, mais il doit s'exiler, il part donc avec sa femme et sa femme va se faire enlever par un démon. Et donc ce personnage, ce prince qui s'appelle Rama, hein, Ramayana en fait, ça veut dire l'épopée de Rama, ce prince va donc passer beaucoup de temps à rechercher sa femme. Voilà. Et il va être aidé par un singe. Une armée de singes, mais le chef des armées s'appelle Hanuman. Donc voilà, certains ont déjà peut-être entendu parler de ce personnage, personnage très populaire en Inde, Hanuman, qui représente, qui est un peu le symbole de la fidélité et du courage. Voilà. Donc voilà, voilà l'histoire. C'est une histoire qui s'adresse à tous. Les adultes et les enfants trouvent plein de choses dans cette histoire qui vont les toucher. C'est une histoire très populaire en Inde. Elle, pas qu'en Inde d'ailleurs, dans l'Asie du Sud-Est aussi. Même en Indonésie, où l'hindouisme n'est plus présent. Le Ramayana est toujours raconté. Cette histoire a nourri énormément les chorégraphies. Les chorégraphies de Bharatanatyam, de danse odyssée, mais pas que. Les spectacles d'ombre, de marionnettes dans l'Asie du Sud-Est. C'est vraiment une histoire très très importante. Et puis là-dedans, il y a plein d'histoires, de situations vraiment incroyables, qui nourrissent la réflexion autant que peuvent le faire l'Iliade et l'Odyssée. Hein, je pense que c'est vraiment aussi important. Peut-être plus, parce que je pense qu'il y a plus d'Indiens qui connaissent le Ramayana que d'Occidentaux qui connaissent vraiment bien l'Iliade et l'Odyssée. Moi je raconte cette histoire et avec de la musique et mes deux compères, Léa et Mathias.
Le Ramayana, musique et danse, spectacle de conte, musique et danse dans le HOF au Centre culturel René Char à Digne-les-Bains, et le 14 mars, donc à 20h30.
Et bien sûr, je joue de la flûte aussi dans ce spectacle.
Ça aurait été dommage de ne pas en profiter, parce que vraiment la flûte, ça a une grande importance pour vous et pour les spectateurs aussi, les auditeurs. C'est un vrai amour que vous avez au départ pour la flûte traversière. Enfin, vous avez commencé avec la flûte traversière classique, j'ai envie de dire. C'est pas vraiment classique, mais avant de venir à la flûte indienne.
Au départ, j'avais 17 ans quand j'ai acheté ma flûte avec le salaire d'un travail d'été. un travail de magasinier, je m'en rappelle. Et avec cet argent, je me suis acheté ma première flûte. C'était Noblet, je me souviens. Ça se fait plus, cette flûte, c'est une marque qui n'existe plus, c'était une marque française.
Ah oui.
Ouais. Et donc, j'ai commencé. Alors, étonnamment, j'ai commencé la flûte, qui est une flûte classique, mais pour faire du jazz. Voilà. En fait, j'ai adoré. J'ai rencontré le jazz, j'avais 15-16 ans, et puis je me suis mis, avant j'écoutais du rock, de la pop, comme tout le monde, je suis la génération qui écoutait Téléphone, ACDC, Trust, tous ces groupes-là, Police, et puis d'un seul coup je rencontre le jazz, ça a été un choc. Mes premiers artistes, premiers émois, c'est Miles Davis, c'est Carl Hablay. Et ça a été à un moment donné Coltrane avec un morceau précis qui s'appelle My Favorite Things. Là, ça a été un grand choc. Quand j'entends ça, je me dis que la vie mérite d'être vécue. Donc il y a plusieurs versions de My Favorite Things, mais il y en a une donc où on entend Eric Dolphy, qui est un flûtiste. Qui joue aux côtés de John Coltrane. Donc il y a également un solo d'Eric Dolphy. Et là, pour moi, c'est une révélation. Il y avait longtemps que j'avais. Que l'idée était dans ma tête de jouer de la flûte. J'avais entendu de la flûte traversière, je ne sais plus bien où, peut-être à la télé, quelque part. Enfin, ce son m'avait charmé, on va dire. Mais là, vraiment, d'entendre ce flûtiste qui. Alors lui, c'est. C'est pas la flûte gentillette, bucolique. C'est vraiment une flûte très très dure, et enfin en tout cas que j'entendais comme ça, et très très folle, et j'ai adoré ça. Donc du coup je me suis mis au jazz. Et d'abord tout seul, un peu en autodidacte, et puis ensuite rencontrant des gens qui en font, un peu formés. Après, j'ai fait une école de jazz. Et quand on écoute du jazz, en fait, étonnamment, on rencontre assez facilement la musique indienne. Alors, ça peut surprendre, mais y a quelqu'un de très important dans la musique qui est George Harrison. George Harrison...
Grand musicien connu dans les Beatles, bien
voilà,
sûr.
Voilà, des Beatles, voilà. Et George Harrison, c'est lui qui a emmené le groupe en Inde. Hein, ils ont fait un voyage en Inde. Mm-hmm. Bon, ils en sont assez vite revenus. Mais George Harrison, lui, il est resté connecté à l'Inde. Et il a rencontré un joueur de sitar qui s'appelait Ravi Shankar, et qui était déjà très connu, qui était une star en Inde, qui avait déjà tourné à l'étranger. Mais George Harrison l'a beaucoup soutenu. Il a produit ses disques et il a aidé aussi d'autres musiciens indiens. Il a beaucoup fait pour la promotion de la musique indienne en Occident. Et il a fait venir des musiciens aux États-Unis. Il leur a fait rencontrer des musiciens de jazz, John Coltrane, mais aussi Jimi Hendrix. Ravi Shankar a rencontré Jimi Hendrix. Il a rencontré Philip Glass aussi.
Ah oui.
Mmh. Voilà.
C'est une musique très très particulière, très
voilà,
circulaire. Hein,
la musique, voilà, la musique répétitive. Mmh. Donc, on doit beaucoup à George Harrison. Et du coup, il y a eu une rencontre. Parce que, bon, bien sûr, il y a eu Ravi Shankar, puis ensuite il y a eu d'autres musiciens, comme ce musicien qui est décédé récemment, Zaki Hussain, qui joue des tablas, qui a joué avec beaucoup de monde, avec entre autres John McLaughlin, mais qui a joué sur plusieurs albums du label ECM, par exemple. Donc voilà, et puis beaucoup de musiciens de jazz se sont intéressés à la musique indienne. Et bien quand on écoute du jazz, ben on rencontre un peu cette musique. Et moi, ça a suscité ma curiosité. J'ai commencé à aller écouter vraiment pour le coup de la musique indienne pure. D'abord de la musique du Nord. Voilà, avec évidemment ce grand flûtiste qui s'appelle Hari Prasad Chaurasia, grand flûtiste du Nord. Et puis ensuite Ramani que j'ai entendu aussi en concert, que je suis allé voir. Et puis ensuite, j'ai fini par aller faire un voyage en Inde. Et c'est à l'occasion d'un... Ensuite, en revenant d'un voyage en Inde, je travaillais dans un centre culturel dans lequel il y avait une association qui tenait ces réunions-là. Et que je finis par rencontrer les gens de cette association et qui aidaient à la reconstruction d'une école en Inde. Et puis ils me disent, tu vois, l'année prochaine, on a fini un gros projet, il y a deux immeubles qui seront terminés, il va y avoir une grosse fête, les Indiens vont faire une fête pendant 24 heures, enfin pendant toute une journée en tout cas, et ils vont proposer plein de choses, et nous on n'est pas du tout artistes, on n'a rien à proposer, on aimerait emmener des artistes. Est-ce que tu veux venir avec nous? Alors moi évidemment, super. Donc je suis parti avec un ami guitariste, et on a joué là-bas. Et puis, là-bas, on était logés chez les profs. Et il se trouve que c'était une école de type collège. Hein, à peu près, c'est à un ou deux ans près, ça correspond à peu près, c'est high school, hein, mm-hmm. c'est le collège. Et donc, j'étais logé chez la prof de musique, Maïti Lee, qui est maintenant une grande amie, voilà, que je suis toujours en contact maintenant depuis 25 ans. Et plus de 25 ans, ouais. Et qui était donc la prof de musique de ce collège, et qui m'a donné mes premiers cours. Voilà. Alors c'était super parce qu'en fin de compte, je m'intéressais à la musique indienne, je voulais essayer de la comprendre, j'ai acheté des bouquins sur la musique indienne, mais alors c'était compliqué, je comprenais rien, quoi. C'était, je sais pas pourquoi, mais les gens qui écrivaient sur la musique indienne voulaient présenter ça d'une manière compliquée. Alors pourquoi? Parce que c'est une musique savante, hein, en tout cas la musique classique indienne, parce qu'il y a de la musique folklorique, voilà, musique populaire, et il y a la musique classique, musique savante. Quand je dis musique savante, j'entends par là une musique pour laquelle il faut 10 années d'études avant de devenir professionnel. Hein, on parle donc de musique savante pour la musique classique occidentale. On parle pour le jazz, on peut parler de musique savante. Et la musique indienne donc a aussi sa musique savante. Donc voilà, je me suis mis à étudier cette musique. Et puis évidemment, alors d'abord premier cours là-bas avec Mighty Lee, je reviens évidemment, je quitte l'Inde en pleurant d'émotion et de ce que j'ai, du cadeau que j'ai reçu aussi. Oui, parce que voilà, c'est ça, que j'ai perdu un peu le fil de ce que j'étais en train d'expliquer. Une musique complexe, mais bien que cette musique soit complexe, je me disais, mais comment font les enfants pour apprendre? Il y a bien une porte d'entrée simple, comme nous, quoi. Il y a une pédagogie avec un... voilà, des niveaux 1, niveau 2, enfin quelque chose, quoi, qui fait qu'on commence simplement. Et Mighty Lee, bah, elle donnait des cours dans un collège, donc à des enfants. Donc évidemment, elle m'a montré tout son... Elle m'a sorti des vieux cahiers à elle, son cursus, ses premiers cours, et elle a commencé à me donner donc les premiers cours. Quand je suis rentré en France, je me suis dit que je devais continuer. Voilà, j'avais reçu un cadeau énorme, j'avais pas le droit de laisser ça comme ça, de rien en faire. Mmh. Et donc là, j'ai rencontré une musicienne, une flûtiste, Sylvie Le Serre, qui est décédée maintenant, mais qui a consacré toute sa vie, en tout cas 40 ans. Pendant 40 ans, elle a vécu 6 mois de l'année en Inde. C'était une Française parisienne qui vivait 6 mois à Paris, 6 mois en Inde. Et quand elle était en Inde, elle consacrait tout son temps à l'étude de cette musique auprès de Ramani. Voilà. Donc Sylvie m'a donc donné des cours, m'a formé sur cette musique. Et puis moi, je retournais en Inde tous les ans. Aussi, j'allais aider cette association. Je suivais les travaux de cette association là-bas. J'en profitais pour faire ce lien. Et puis, quand je retrouvais Sylvie en Inde, on allait chez Ramani. Et c'est comme ça que j'ai donc pris des cours avec Ramani, ce maître incroyable, et qui m'a permis de rencontrer aussi d'autres musiciens et de faire des projets en Inde avec des artistes, d'enregistrer là-bas, de faire aussi de faire venir des musiciens indiens en Inde. Et puis voilà, plein de choses autour de... Voilà, et c'est comme ça que j'en arrive à ce spectacle, par exemple, le Ramayana, entre autres choses. Voilà, pour faire le tour sur la musique indienne.
Ah, c'est passionnant, Stéphane Thomas. Donc, ce grand amour pour la flûte, toutes ses formes, et la flûte indienne. Vous en fabriquez même, vous apprenez, vous faites des ateliers, vous apprenez à fabriquer des flûtes indiennes?
Alors étonnamment, pour parler de la flûte, tiens, ça, c'est un truc, je vais parler de ça parce que peu de gens savent ça. La flûte est un instrument moderne pour la musique classique indienne. Alors évidemment, on joue de la flûte depuis la nuit des temps en Inde, hein, mais la flûte restait un instrument de musique folklorique, de musique populaire. Et surtout, il y a un personnage, une divinité en Inde, donc parmi les milliers de divinités qu'il y a en Inde, il y en a une très populaire qui s'appelle Krishna, et Krishna est représenté en train de jouer de la flûte. Bon, Krishna est un roi, un prince au départ, qui a été élevé par une famille adoptive à la campagne pour être caché. Voilà, parce qu'un roi voulait, la légende raconte qu'un autre roi voulait le tuer, il savait qu'un enfant risquait de le tuer, voilà. Donc il a été caché, et donc Krishna est un personnage de la campagne au départ, puisque il est à la campagne, il garde les vaches, et il joue de la flûte. Donc la flûte évoque Krishna. Donc quand par exemple il y a un spectacle de danse indienne, eh bien, c'est les musiciens qui accompagnent, ce sont des musiciens de musique classique. Ils jouent donc de la musique savante. Mais au moment où Krishna, si le personnage de Krishna apparaît dans ce spectacle, eh bien, on va faire entendre la flûte. Mais qu'est-ce qu'elle va jouer? De la musique folklorique. Voilà, pour faire entendre la musique des campagnes. Donc pendant longtemps, la flûte était associée à une musique des campagnes. Et c'est vraiment qu'il y a un siècle et demi, à peu près, qu'il y a des musiciens indiens, dans le nord comme dans le sud, qui ont essayé d'intégrer la flûte à l'instrumentarium de la musique classique indienne. Dans le nord, ils ont choisi de faire une très grande flûte, la flûte bandchouri. Voilà. Et dans le sud, ils ont préféré une plus petite flûte, mais elle avait quelques inconvénients. On n'arrivait pas à faire toutes les inflexions, les glissés. Enfin, il y avait des choses qu'on ne pouvait pas faire. Et c'est vraiment que dans les années 20-30 qu'arrive un musicien dans le sud qui s'appelle Malingam, qui invente la flûte carnatique. Une flûte à 8 trous, un système assez étonnant. Et donc, vous voyez, c'est quand même récent. Hein. Et c'était l'oncle de Ramani. Donc, c'est pour ça que Ramani, qui était mon maître, est devenu aussi ce personnage si important pour l'histoire de la flûte. Donc voilà, la flûte est un instrument très, très récent pour la musique classique. J'entends, pour la musique savante. Alors, donc vous avez compris, donc il y a deux flûtes différentes. Enfin, il y a plus que deux flûtes différentes, évidemment, en Inde. Hein, mais il y a quand même deux flûtes. Donc, de principales, on va dire, la flûte bandchouri dans le nord, une flûte à 6 trous et une flûte à 8 trous. Petite dans le sud. Et moi, j'ai donc étudié la flûte carnatique, mais je me suis intéressé à la lutherie. On parle de lutherie maintenant, même aussi pour les flûtes aujourd'hui. Tous les fabricants d'instruments, on parle de luthier. Donc, je me suis intéressé à la lutherie de la flûte indienne, parce que je voulais comprendre comment on en était arrivé à faire cette flûte à 8 trous, qui est une flûte très étrange. Au début, on ne comprend pas bien pourquoi on a mis les trous à cet endroit-là, enfin voilà. Et je me suis dit, avant de passer à la flûte à 8 trous, il faut que j'étudie la flûte à 6 trous. Et j'ai donc commencé à fabriquer des flûtes bandchouri. Donc aujourd'hui, je ne fabrique pas des flûtes à 8 trous, j'en ai fabriqué quelques-unes, mais voilà, aujourd'hui, je fabrique des flûtes bandchouri.
Alors avec du roseau,
avec du bambou.
Du bambou.
Voilà, du bambou, avec une particularité ici, c'est que, alors, en Inde, les flûtes sont fabriquées dans des entre-nœuds. Vous voyez, le bambou, il y a des nœuds, et c'est entre deux nœuds qu'on fabrique une flûte, pour avoir un tube bien droit. Mais en France, on n'arrive pas à faire pousser de bambou avec des entre-nœuds assez grands, donc j'ai toujours un nœud au milieu. Et donc ça génère une flûte bandchouri un peu particulière, mais voilà, j'ai développé une technique là-dedans et je fais des formations, voilà, surtout l'été, mais dans l'année aussi parfois il y a des gens qui viennent faire des stages avec moi pour apprendre à faire ces flûtes.
On peut arriver à avoir un bon son.
Ah oui, ça fait des vraiment
qui
des
participe bonnes... à l'atelier, je veux dire.
Oui. Je fabrique vraiment des flûtes qui sont vraiment bien jouables. Mm-hmm. Et puis voilà, ça permet aux gens d'apprendre plein de choses sur le bambou déjà, sur cette matière incroyable, sur cette plante extraordinaire qui n'est pas un arbre, hein, qui est une herbe géante. Et qui est un brin d'herbe, voilà. Une tige de bambou, c'est un brin d'herbe géant. Et puis bien sûr sur la flûte qui est un instrument incroyable, cette flûte indienne, parce que il y a aucune pièce rajoutée. On prend un bout de bambou et on ne fait que d'enlever de la matière pour y faire des trous. Donc ça paraît comme ça très très simple. Et en définitive, non, c'est il faut pas mal de connaissances. J'ai d'ailleurs moi-même, à un moment donné, au début j'ai commencé un peu tout seul, j'ai cherché des choses, j'ai lu des choses, j'ai rencontré aussi des luthiers aussi en Inde. Mais il y a des moments, je bloquais sur des choses, j'avais rencontré des problèmes et j'ai dû rencontrer un luthier qui m'a formé. Et j'ai fait une formation. Voilà, c'est pour dire que cet instrument comme ça qui paraît si simple, eh bien en fait il faut énormément de connaissances pour réussir à en fabriquer.
Et est-ce qu'il faut calculer la distance entre chaque trou pour avoir la note juste? Comment ça se calcule?
Voilà, alors il y a des histoires de proportions, mais il y a aussi des ajustements. Donc en fait, moi je brûle le trou pour pouvoir faire un trou qui va progresser progressivement. un peu plus vers la gauche ou la droite, voilà, que je fais avancer, et j'avance à l'oreille. Donc là, il y a toute une technique pour vraiment ajuster la note bien juste et avoir la note juste au moment où le trou a le bon diamètre. Voilà. Donc ça, c'est toute une technique. Bon, il y a d'autres techniques, comme la technique aussi du brûlage du bambou, pour que le bambou reste, voilà, se solidifie, reste stable. Enfin voilà, il y a plein de techniques que j'apprends, et ça fait des stages assez passionnants. Donc je fabrique des flûtes. Bon, j'en vends de temps en temps, ça m'arrive, mais c'est surtout pour former, puis pour sensibiliser le public au bambou aussi, qui est une plante passionnante, mais aussi à la flûte. Voilà, cet instrument qu'on dit être le plus vieux du monde. Bon, c'est pas tout à fait vrai. Je pense que les hommes ont commencé par taper, hein, sur des choses.
Avec la pierre.
Voilà, je pense que la percussion a été sûrement plutôt un des premiers instruments. Mais puis les instruments à cordes, tout est arrivé, je pense, très vite en même temps, à partir du moment où on a commencé à faire de la musique. Mais parce que c'est le plus vieil instrument qu'on ait retrouvé, c'est une flûte. Voilà, bon, c'est dû à la matière, parce que c'est de l'os. C'était une flûte fabriquée dans un os. Mmh. Alors que tous les instruments en bois, en peau, ils ont été détruits, on les a perdus. Donc c'est un peu pour ça qu'il y a cette légende de l'instrument le plus vieux du monde. Mais...
Et qu'est-ce que vous pensez des instruments que certains font dans des légumes, dans les carottes ou...
Ah oui. Ah oui, il y a quelqu'un, on voit ça, il y a une vidéo assez connue de quelqu'un qui fabrique une flûte... Oui, c'est
surprenant qu'on puisse avoir des sons.
Ouais, mais en fait, on peut faire des instruments dans toutes les matières, matières. Hein, un instrument de musique, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose. Ça part d'un objet qui vibre. De toute façon, tous les objets, à partir du moment où on tape dessus, on le fait vibrer d'une quelconque manière, voilà, va produire un son. Et à ce moment-là, si on peut jouer sur le son pour faire des notes différentes, ça va commencer à devenir un instrument de musique. Donc là, il y a plusieurs techniques, hein, pour produire des sons, les tubes, les cordes, les peaux qui vibrent, donc les percussions, les instruments à vent, les instruments à cordes. Et ça, on retrouve ça dans toutes les cultures. D'ailleurs, alors il y a la Cité de la Musique à Paris, mais il y a un endroit au Quai Branly. Si vous avez l'occasion d'aller à Paris, au Quai Branly, il y a un endroit, une espèce de tour en verre, un endroit comme ça, c'est assez surprenant, avec une collection incroyable de plein d'instruments du monde. Je ne sais pas s'il y a tous les instruments du monde, mais je ne sais pas si c'est possible d'avoir tous les instruments du monde, mais ça donne vraiment cette impression. Et on s'aperçoit que dans toutes les cultures, on retrouve les mêmes... presque les mêmes instruments, en tout cas les mêmes familles à chaque fois, percussions, instruments à cordes, cordes pincées, donc la famille des luths, cordes frottées, comme le violon, des flûtes, des percussions, il y a ça, percussions à main, percussions à baguette, et on retrouve ça absolument dans toutes les cultures.
On n'a pas parlé de Jethro Tull, ce groupe, ce magnifique flûtiste. Qu'est-ce que vous pensez du flûtiste?
Eh ben oui, c'est un chouette flûtiste avec une énergie incroyable. Moi, ce que j'aime bien, c'est pas un musicien que j'écoute beaucoup, mais j'ai beaucoup de respect pour lui parce que il a amené, évidemment le côté rock, hein, de la flûte, c'est-à-dire que La flûte, on l'imagine souvent... elle a un côté bucolique, hein, la flûte. D'ailleurs, j'ai parlé de Krishna, mm-hmm. Hein, c'est la campagne, c'est la flûte, c'est l'instrument des bergers, c'est l'instrument de beaucoup de divinités, d'ailleurs, aussi. C'est un instrument qui évoque beaucoup la nature à cause de sa pureté de son. Enfin, c'est un son qui... Quand je dis pureté, je ne devrais pas dire ça... C'est un son assez simple. Voilà. Par exemple, si on prend le saxophone, c'est un instrument dans lequel il y a beaucoup d'harmoniques. C'est un son très très riche. Voilà. La flûte, c'est un son, je dirais, presque pauvre. Mm-hmm. mais c'est sa richesse, sa pauvreté de son, c'est sa richesse. Et, Et du coup, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Oui, et donc Jethro Tull, il a amené ce côté, ben, un peu de violence aussi. Et montrer que cet instrument pouvait aussi manifester de la colère, de l'énergie. Et moi, c'est ce que j'ai aimé tout de suite. Je parlais d'Eric Dolphy tout à l'heure. Eric Dolphy, il manifeste pas la colère, hein, mais il a un son très très dur, je dirais assez dur. Et j'ai aimé ce côté-là. Alors bien sûr, bon, j'aime jouer aussi des choses douces aussi. Il y a pas de souci. Mais voilà, je crois qu'avec la flûte, on peut vraiment manifester des tas de sentiments. Il y a une matière sonore qui peut générer des tas d'émotions différentes. Et voilà, il y a des artistes comme ça qui ont amené l'instrument sur d'autres terrains. Et voilà, Jethro Tull, il a fait partie de ces gens-là. Mmh. Voilà. C'est un personnage donc important pour l'histoire de la flûte, effectivement. C'est bien de le rappeler.
Et qu'est-ce que vous pensez de Jean-Pierre Rampal?
Ah, Jean-Pierre Rampal, ouais. Personnage important parce que important pour la flûte classique parce que étonnamment la flûte manquait de répertoire. Mm-hmm. Voilà, c'est-à-dire que par exemple Mozart détestait la flûte. Il a écrit deux concertos, un pour flûte seule et un pour flûte et harpe. C'était une commande qu'il avait eue. Il se trouve qu'il, je ne sais plus qui exactement, il était en France, j'ai oublié son nom, et il était amoureux de la fille de ce commanditaire et qui jouait de la flûte. Donc il s'y est collé. Mais il n'aimait pas beaucoup la flûte. Il a pourtant créé ses plus beaux concertos. C'est magnifique ce qu'il a écrit. C'est très très réussi. Mais il aimait, étonnamment, il aimait pas la flûte, voilà. Alors, aussi parce qu'il trouvait que ça jouait pas assez juste, ça manquait, il y avait des problèmes de justesse. Et ensuite, quand on écoute la musique romantique, il n'y a pas beaucoup de flûte. Enfin, la flûte est dans l'orchestre, elle participe au son de l'orchestre, mais on entend très peu de flûte seule. Et la flûte va revenir avec Debussy, Syrinx, par exemple, il a écrit quand même, une œuvre pour flûte seule. Et puis ensuite, le début du XXe siècle, on commence à avoir un peu de répertoire. Mais ce qu'a fait Jean-Pierre Rampal, c'est que il a écrit des arrangements d'autres œuvres classiques qu'il a adaptées pour la flûte. Il a beaucoup fait ce travail, donc il a fait beaucoup pour la promotion de cet instrument. Et on lui doit surtout ça. Voilà, c'est un travail remarquable, une œuvre extraordinaire, un personnage important pour l'histoire de cet instrument. Voilà.
Stéphane Thomas, on a beaucoup parlé de flûte, mais vous donnez aussi des cours de guitare.
Oui,
voilà. De flûte, de guitare.
Oui, j'enseigne à la MJC de Manosque et puis aussi à l'école du Haut-Verdon, à Thoram.
Voilà, et ça va être l'heure de nous quitter. Est-ce que vous avez un site ou un Facebook où on peut retrouver ce que vous faites ou votre agenda culturel?
Oui, alors, moi j'ai un site, c'est Steph Thomas. Donc Steph avec PH, voilà, tout attaché, stephthomas.fr. Et puis on retrouve les projets que je montre, qui sont en cours, même quelques projets passés aussi. Jeudi-vendredi, pour les correspondances, Le vent m'a traversé, donc avec Renat 7, là on peut entendre quelques morceaux sur le site de Renat. Donc là il faut taper Renat 7, R-E-N-A-T et 7 S-E-2-T-E. Voilà, et je pense qu'en cherchant Renat 7, on le trouve assez facilement. Et
Le
vent m'a traversé.
Le vent m'a traversé.
Voilà, c'est le titre du spectacle. Mm-hmm. Voilà.
Voilà, et puis on vous retrouve donc aussi dans le off le samedi 14 mars à 20h30. Et puis j'en parle quand même aussi, on vous retrouvera à mes côtés.
Eh oui.
Pour dans le cadre des rendez-vous de poésie à Valensole. Ce sera le 22 novembre à 17h30, je crois, et où on pourra jouer mes compositions,
voilà.
Puisqu'on a fait ensemble un CD, distributeur de câlins, donc ce sera l'occasion de représenter ce bébé.
Voilà, donc on n'en a pas eu le temps trop d'en parler,
j'accompagne
aussi Odile Frison.
Voilà,
donc,
voilà pour mon plus grand bonheur.
Voilà, à la flûte et à la guitare. également.
Voilà, ouais. Et ce CD qui était enregistré chez le talentueux et sympathique Thomas Rébard.
Et oui, ouais, qu'on salue, que, et ouais. Vraiment on peut saluer son travail, c'est vraiment un grand plaisir de travailler avec lui. Ouais. Donc, vraiment, je fais vraiment la publicité pour cet artiste, on peut dire.
Cet voilà. Artiste, ouais. Voilà. Merci Stéphane, et à très bientôt. Et un jour, on parlera magie aussi, puisque ça fait partie
pourquoi pas.
D'une de vos autres passions en dehors de la musique et de la composition. Au revoir.
Au revoir.